Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur l'Assesseur. Avant toute chose, je voudrais remercier infiniment la Vallée d'Ost, l'assessorat. C'est beaucoup d'écho. On recommence. Donc, vous allez devoir me supporter pendant quelques heures. Donc, autant vous y préparer. Et je voudrais donc remercier la Vallée d'Ost pour son accueil si aimable. La Vallée d'Ost dans laquelle je viens depuis longtemps, la Fondation Émile Chanot, Étienne Antrigone. C'est vraiment un grand plaisir de venir. Et je, comme l'a répété M. le Président, je vous ai parlé plusieurs fois du fédéralisme en tant que tel, mais cette fois, ce sera un peu différent, parce que je vais consacrer mon exposé vraiment aux questions linguistiques. Il y a des groupes minoritaires qui sont invités dans ce festival, mais je n'ai pas du tout l'intention de jouer les militants. Tout en étant représentant d'un peuple minoritaire en Suisse, les francophones trop opprimés par la majorité germanophone dans notre pays. Et l'assesseur a prononcé un mot très important, localisation. Il faut vivre à la fois localement et dans la globalisation. La question linguistique est d'une redoutable complexité. Et en fait, les problèmes des minorités, les problèmes identitaires, on le voit, sont toujours confinés dans une extraordinaire localitude, si on ose dire. La question des enfants marocains qui apprennent le patois en Aldost, c'est vraiment quelque chose de très, très local. Et c'est la raison pour laquelle je n'entends pas du tout dans cet exposé, aborder ce genre de questions, mais j'entends bien au contraire dresser un portrait tout à fait global des questions linguistiques, de manière à permettre à tout un chacun de voir à quel point la question des langues a pris de l'importance à travers le monde, et que finalement il y a beaucoup de langues minoritaires, et que chacun peut et doit adopter son propre comportement. C'est pas une volonté de vouloir jouer à militant. Je vois par exemple que dans mon canton, à Fribourg, qui est un canton bilingue, un des rares cantons bilingues de Suisse, il y a toute une littérature, des livres, des articles, des arrêts du tribunal fédéral suisse qui sont consacrés à quelques cas délicats de cohabitation linguistique à l'extrême frontière des langues. Et c'est vraiment des termes qui sont tellement spécifiques qu'on n'arrive absolument pas à les généraliser. Donc je veux laisser à chaque minorité le soin de défendre, de voir elle-même ses modes de défense. Et je vais plutôt consacrer cet exposé à vous rappeler, de manière générale, dans le monde entier, la globalité, la vertigineuse diversité de la question linguistique. Et j'espère que vous aurez plaisir à découvrir à quel point cette question est variée et fascinante, parce qu'on découvre que dans le monde entier, il y a beaucoup de langues, beaucoup de problèmes, des langues qui naissent, qui vivent, qui meurent, des langues qui se défendent, d'autres qui ne se défendent pas, et c'est quand même quelque chose d'extrêmement fascinant. D'un point de vue tout à fait concret, je vais beaucoup me reposer sur mes notes, parce que c'était des notes très inspirées, des recherches qui ont été faites au Québec là-dessus, dans ce domaine. Il y a beaucoup de termes, beaucoup de données, beaucoup de choses très précises, qui interdisent de broder, parce que je ne vais pas vous faire un discours politique, l'assesseur était là pour ça, et bien entendu je suis ouvert à toutes les questions que vous pourriez me poser, notamment sur les questions de décentralisation et de fédéralisme, mais qui resteront un peu accessoires par rapport à cette question linguistique. D'un point de vue matériel, pour éviter que vous ne vous endormiez et que vous soyez complètement écrasé par la diversité du thème, on va faire adopter le rythme universitaire, 3 quarts d'heure d'exposé et 1 quart d'heure de pause pour vous permettre de fumer une cigarette ou de boire un café pour être de nouveau fit et prêt à recommencer. Donc si vous le voulez bien, je vais commencer pour une demi-heure, disons, parce qu'il y a déjà eu plusieurs exposés, et pour éviter que vous soyez complètement écrasé par la charge des explications, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, parce que ça peut rendre le dialogue extrêmement intéressant. Mais comme je vous ai dit, je ne compte pas jouer les militants, et je compte bien rappeler que les Suisses sont célèbres avant tout, non seulement pour le chocolat, mais pour la neutralité. S'il ne faisait pas si chaud, on pourrait appeler ça une causerie au coin du feu. Donc, pour commencer, une petite présentation des langues par continent. Nous aborderons les langues par continent, l'inégalité des langues, l'expansion des langues internationales, puis les minorités linguistiques, puisque c'est ce qui nous intéresse le plus, la vitalité des petites langues, peut-être pas de toutes, la mort des langues, ça arrive aussi. Le multilinguisme, ses causes, sources de conflits. Le bilinguisme dans les États et le bilinguisme dans les États fédéraux. Si on commence en s'intéressant aux langues par continent, il faut savoir qu'il y a beaucoup de langues en ce moment. Il y a environ, à notre époque, quelques 6800 langues dans le monde. Il y a 2165 langues en Asie, 2000 en Afrique, 1300 dans le Pacifique, 1000 en Amérique et seulement 225 en Europe. Le nombre de langues varie un tout petit peu, mais semble-t-il, ce n'est pas parce que les langues sont créées, mais parce qu'elles sont mieux décomptées. Si on considère continent par continent, l'Europe compte des États qui ont 35 langues officielles et 222 langues vernaculaires. Il y a quelques États qui ont une seule langue, comme l'Islande, on parle islandais, le Liechtenstein qui parle l'allemand, et le Vatican qui parle l'italien. Mais la plupart des États comportent plusieurs langues, notamment 21 en Allemagne, 13 en Azerbaïdjan, 11 en Bulgarie, 15 en France. On n'imagine pas la richesse dialectale des pays européens, quoique l'Europe reste quand même un continent dans lequel il y a relativement peu de langues. Des pays comme la France, l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Italie comptent de nombreuses langues minoritaires, et certaines d'entre elles, mais évidemment c'est ce qu'on verra de manière plus détaillée plus tard, ont acquis un certain statut officiel. Par exemple, le basque, le catalan, le galicien en Espagne, le gallois, l'écossais, l'irlandais, on parlera souvent de ces langues-là. Le français en Italie, dans la vallée d'Ouste, ou le féroïen aux îles Féroé, le sarde en Italie par exemple. Mais quand même, sur le continent européen, 225 langues différentes avec 35 langues officielles, cela ne représente que 3% des langues du monde. Donc l'Europe est un continent le plus homogène du point de vue linguistique parce qu'on compte en Europe une langue pour une tranche de 4,3 millions d'habitants. En Amérique, l'Amérique est un immense continent de 770 millions d'habitants et on y trouve 46 États. Bon, plusieurs sont de tout petits États ou des territoires d'outre-mer qui appartiennent à la France, au Royaume-Uni, des grands États comme le Danemark, le Groenland qui appartient au Danemark. Mais la plupart des langues officielles, c'est l'anglais pour 19 États, l'espagnol aussi pour 19 États, le français pour 5 États. Mais, là aussi, à côté de ces langues officielles, il faut compter en tout cas un millier de langues dans les deux Amériques. La palme revenant aux nombreuses langues amérindiennes, qui ont compté environ en 1955 1700 langues amérindiennes. Actuellement, on en compte plutôt un millier. Vous savez à ce propos que certaines langues des Indiens d'Amérique, notamment le Sioux, sont des langues extraordinairement difficiles, et que les Américains utilisaient ces langues comme message secret pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il y avait extrêmement peu de gens qui étaient capables de les comprendre, et c'était beaucoup plus subtil que les systèmes de cryptographie les mieux élaborés, et parce que personne n'était capable de comprendre ces langues, étaient extrêmement complexes. Les 1000 langues de l'Amérique représentent 15% des langues du monde. En ce sens, l'Amérique paraît beaucoup plus diversifiée, avec une tranche de 760 000 habitants par langue, contre 4 millions par langue en Europe. Il y a peu de pays unitaires ou unilingues en Amérique. La Barbade, qui parle l'anglais, Cuba, qui parle l'espagnol, les îles Falklands, qui parlent l'anglais, et Saint-Pierre-et-Miquelon, qui parlent français. C'est évidemment intéressant à retenir dès le départ, parce qu'on s'aperçoit que les États monolingues restent relativement rares. Si on passe de l'Amérique à l'Asie, l'Asie est le continent le plus peuplé de notre planète, avec 2,5 milliards d'habitants. Il y a en Asie 2180 langues, donc 33% des langues du monde, à peu près un tiers. 46 pays en Asie, une langue par tranche de 1,1 million d'habitants, 34 langues officielles pour 49 États. Beaucoup d'États parlent arabe, qui est officiel dans toute une série d'États. L'anglais aussi. Le chinois également, en 4 États. Chine, Singapour, Taïwan. Autrement, les langues officielles pour tous ces États. Il y a une langue officielle, le pachtou, le bengali, le birman, le khmer, le farsi, l'hébreu. Ça nous rappelle qu'il y a quand même beaucoup de langues en ce moment. En Asie, les pays les plus multilingues. C'est évidemment une chose fascinante, parce qu'on s'aperçoit que dans des pays comme la Suisse, on est très fiers de nos quatre langues. En Italie, avec l'italien, avec la vallée d'Aoste qui parle français, le Trentin d'Adige qui parle allemand. Mais en Asie, en Indonésie, on dénombre 660 langues. On en dénombre 407 en tout cas en Inde, 205 en Chine, 168 aux Philippines, 124 dans le petit Népal, 110 en Birmanie. C'est vraiment très énorme comme quantité de langues. Et donc vous imaginez, dans de tels pays, les problèmes de minorité, c'est absolument considérable. Les États exceptionnellement unilingues, comme je vous le disais, il y en a très peu. Il y a le Corée qui parle le coréen. On ne sait pas s'il y a une grande différence entre le coréen du Nord et le coréen du Sud, et les Maldives qui parlent le maldivien. On le voit une fois de plus, les États unilingues sont rares et tout petits. Si on passe à l'Afrique, il y a en Afrique 725 millions d'habitants et 2000 langues, soit 30% des langues du monde. Donc l'Afrique est très hétérogène, avec une langue pour 360 000 habitants. Donc vous imaginez, une langue et tous les 360 000 habitants, c'est une statistique, tous les 360 000 habitants, vous avez une autre langue. Seulement 14 de ces langues possèdent un statut officiel. On voit bien que la question des minorités se pose d'une manière invraisemblable dans le monde, parce que vous avez 14 langues officielles et 2011 langues en Afrique, donc pratiquement 1990 langues non officielles et 14 langues officielles. C'est dire à quel point il est difficile pour les langues de survivre ou simplement de vivre. Le français est officiel dans 23 États, l'anglais, etc., l'arabe dans 10, le portugais, l'afrikaans. Peu de langues autochtones ont un statut officiel en Afrique. À part l'arabe, il y a le swahili au Kenya et en Tanzanie, L'amharique en éthiopie, c'est d'ailleurs très joliment écrit, le créole aux Seychelles, le kinyarwanda au Rwanda et le kirundi au Burundi. Vous avez aussi le tigrinya en Érythrée, le malgache en Madagascar, le sesotho au Lesotho, le somali en Somalie et le swati au Swaziland. C'est extrêmement difficile dans des réunions internationales africaines de trouver des traducteurs simultanés par le tigrinya et le swati. C'est pas évident du tout. Quand on voit le tableau de langue d'Afrique, les pays les plus multilingues sont le Nigeria avec 450. Donc là aussi, on est dans des dimensions qui nous sont proprement vertigineuses. On s'extasie sur 2-3 langues dans les pays européens. Si on a une dizaine, on trouve ça fabuleux. Et au Nigeria, vous avez 470 langues. Je rappelle qu'en Inde, il y en a les 407, les 660 en Indonésie. Donc il y a des pays dans lesquels les questions linguistiques sont même beaucoup plus compliquées. Au Cameroun, un très grand pays, 279 langues. Au Congo, 221, etc., etc. Mais même en Éthiopie, 84 langues, au Burkina Faso, 71, etc. Seuls quelques rares États paraissent montrer une certaine homogénéité linguistique. Le Burundi n'a que 3 langues. Là, vous imaginez la différence de perception. Chez nous, on trouve qu'un État a 3 langues, c'est déjà pas mal du tout. Et au Burundi, c'est vraiment le minimum absolu d'avoir 3 langues. Le Rwanda en a 3 aussi. L'île du Cap-Vert en a 2. Les Canaries, 2. Sao Tomé, 2. Les autres ont 3. Donc finalement, il n'y a pratiquement pas un seul pays qui a une seule langue. Mais la situation est encore pire en Océanie, parce qu'en Océanie, vous avez une langue par tranche de 23 000 habitants. En tous les 23 000 habitants, vous avez une autre langue. Bien entendu, ça c'est des statistiques théoriques, mais c'est quand même impressionnant. Sur une population relativement faible de ce continent, avec 30 millions d'habitants, vous avez 1302 langues. Dans 27 États, dans la plupart sont des micro-États, des territoires du Royaume-Uni, de France, des États-Unis, parce que vous avez beaucoup de colonies dans l'Océanie qui viennent d'autres, qui appartiennent à d'autres États. L'anglais, le français constituent les grandes langues du Pacifique. On verra tout au long de ce cours, évidemment, les grandes langues ont eu tendance à s'imposer dans le monde entier. On verra pourquoi, on verra comment, en ne laissant plus que des miettes pour les autres. Et il y a quelques langues indigènes qui subsistent de manière importante, comme le Chamorro à Guam, l'Hawaïen à Hawaï. On verra que l'Hawaïen à Hawaï est une langue tout à fait intéressante dans plusieurs contextes. On reparlera de l'Hawaïen à Hawaï, le Kiribati à Kiribati, le Maori en Nouvelle-Zélande, le Samoan au Samoa, etc., etc. Les autres langues ne bénéficient d'aucun statut particulier dans cette immense région du monde. Il y a 738 langues papoues, 260 langues des aborigènes australiens, 500 langues malayo-polynésiennes de type oriental. C'est absolument vertigineux. Les pays les plus multilingues sont la Papouasie-Nouvelle-Guinée, 817 langues. Je pense que certaines ne sont même pas connues. Vous imaginez, à propos de Papouasie, vous connaissez cette jolie histoire qui est arrivée au professeur Ronald Watts, qui est un grand spécialiste canadien du fédéralisme. Et un jour, en pleine nuit, le téléphone sonne, il va répondre, et au bout du fil, c'est le premier ministre de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui lui dit « Écoutez, je viens de lire votre livre sur le fédéralisme, je trouve ça extraordinaire, fantastique, je voudrais bien que vous veniez nous faire une constitution fédérale. » Et donc lui, au milieu de la nuit, a dit « Vous voulez ?» Et donc il a été invité plusieurs mois à parcourir la Papouasie-Nouvelle-Guinée pour rédiger une constitution de type fédéral. Il l'a fait. Mais ce qui est dommage, c'est que la Papouasie-Nouvelle-Guinée n'appartient pas véritablement encore actuellement aux fédérations du monde, et à décentraliser, mais ça a donné à Ronald Watts l'occasion extraordinaire de parcourir ce pays totalement méconnu pendant plusieurs semaines, et il a vécu des choses tout à fait extraordinaires là-bas. Il a réussi à ne pas se faire manger, ce qui est quand même quelque chose de formidable. Si on résume sur les 5 continents, on a donc 6700, 6800 langues pour 224 États. tout ça c'est un peu érotique, ce qui correspond à un certain nombre de grandeurs, non, ou des nombres réels, et c'est ça qui va nous faire tous nos calculs. Mais certains experts, on ne va pas entrer dans les querelles d'experts, disent qu'en fait, il y aurait encore plus de langues, parce que, bien sûr, tous les patois, tous les patois, là, on s'en sort qu'on sort de notre cas. Ce qui est intéressant, c'est donc de rappeler, dans ce premier point, qu'il y a beaucoup de langues dans ce bas monde, quelques rares langues majoritaires, beaucoup de langues minoritaires, que c'est extrêmement varié. Et donc que cette question des minorités linguistiques est une question qui va prendre une importance considérable à travers le monde entier. Et ce n'est pas seulement pour les quelques régions que nous sommes en Europe, mais c'est effectivement partout que la question va se poser. On va parler maintenant de l'inégalité des langues. L'inégalité numérique, on l'a dit. Parmi les 6800 langues du monde, seules 8 langues seulement sont parlées par plus de 100 millions de locuteurs. La première, c'est le chinois mandarin, 885 millions. L'espagnol est en deuxième. L'anglais, le bengali, l'hindi, le portugais, le russe et le japonais. On peut aussi adjoindre l'arabe à ces langues très parlées, si on admet l'arabe avec toutes ses variétés dialectales, il serait parlé par plus de 200 millions de locuteurs. Bon. Fascinant, n'est-ce pas? Vous avez 6800 langues, mais quand même, seules 8 ou 9 langues vraiment considérables avec un bassin de population et de locuteurs dépassant les 100 millions de personnes. Vous avez ensuite des langues entre 100 et 50 millions de locuteurs, donc des langues moins importantes, l'allemand, le chinois, vous, le javanais, le coréen, le français. Et ça, évidemment, on a toujours l'impression que le français est la langue la plus importante du monde. Bon, en fait, c'est pas vrai, on arrive dans les langues un peu secondaires quand même, coincées entre le coréen et le vietnamien. Et dans les langues de l'ordre d'importance du français, il y a aussi le telugu, le chinois yu, le marathi, le tamoul, le turc et l'ourdou. Donc oui, ça fait des voisinages un peu intéressants, n'est-ce pas? Dit le français, la langue diplomatique, la langue de l'intelligentsia, le français extraordinaire. Bah, putain, on est au plus numérique entre le telugu, l'ourdou et le marathi. Il y a personne qui sait ce que c'est que le marathi. Le décompte des locuteurs de ces 21 langues principales est de 3,5 milliards sur 5 milliards, ce qui représente environ 70% des habitants de la planète. On voit peu de langues pour beaucoup de locuteurs, ce qui laisse énormément de minorités. Ensuite, il y a des langues qui sont dans des bassins de entre 50 et 20 millions de locuteurs, je ne les ai pas là. Et elle représente, avec les langues de la première catégorie, 86% des habitants de la Terre. Bon, il y en a toute une série de langues. Ce qui fait que ces langues-là, de 27 langues de la seconde catégorie, on arrive à environ une cinquantaine de langues pour 86% des habitants. Donc on s'aperçoit qu'il y a vraiment énormément de langues qui sont très, très minorisées. Les 74 premières langues de l'humanité sont parlées par 94% des habitants de la planète. Hein? 74 langues, 94% des habitants de la planète. Ça ressemble un peu à cette statistique qu'on voit en Ukraine. En Ukraine, il y a eu de grands scandales, ils n'étaient pas contents du tout sur la démocratisation et l'indépendance de l'Ukraine après l'époque soviétique. Parce qu'ils se sont rendus compte maintenant que 20 familles possèdent à peu près 90% du pays. C'est un peu la même chose, dans un contexte financier, plus qu'un contexte linguistique. Mais il y a quand même 75 langues qui sont parlées par 94% des habitants de la planète. Ça représente 1% des langues du monde. 95% des habitants parlent 1% des langues. Donc 5% des habitants parlent 99% des langues. C'est quand même tout à fait considérable. Il y a des petites langues. Et si on demanderait les langues parlées par moins de 1 million locuteurs, et au moins 1 million, ça fait 150 langues parlées par au moins 400 millions de locuteurs. Cela signifie que les langues parlées par plus d'un million de locuteurs, c'est au nombre d'environ 250, et représentent la 99% de la population mondiale. Ces chiffres montrent surtout qu'il y a beaucoup trop de langues pour le petit nombre de pays qui les habitent. Plus de 6700 langues pour 225 pays, et les gouvernements ne peuvent accorder la même importance à toutes les langues parlées à l'intérieur de leurs frontières. C'est la raison pour laquelle les choix politiques sont faits. Il y a seulement un tout petit nombre de langues qui ont une reconnaissance officielle ou semi-officielle. Les autres, sans protection, sont abandonnées à leur destin. Et c'est là des débats qu'on se rend compte de l'élément sous-jacent fondamental de cette question, c'est que les langues sont en principe abandonnées à leur destin, et c'est donc aux locuteurs de prendre leur destin en main pour essayer de faire revivre ces langues. Donc, la plupart des langues du monde connaissent une situation précaire, une situation dans laquelle elles sont en difficulté de survie, 98% des langues. N'oublions pas que des centaines de langues ne sont parlées que par quelques dizaines de milliers de locuteurs, souvent par quelques centaines, parfois très très peu de locuteurs. On verra tout à l'heure la question de la mort des langues, c'est absolument dramatique. Alors là, il y a toujours des exemples très amusants, parce que ça nous fait découvrir des choses. En Sibérie, par exemple, le lamout est parlé par 12 000 locuteurs. Peut-être que depuis le moment où ces lignes ont été écrites, le nombre de locuteurs a encore baissé. Le guillac par 400 locuteurs. L'itelman par 100. L'ennet par 60. La leute par 10. Le roc par 490. Et alors, record des records, le camassien. Si quelqu'un d'entre vous souhaite faire des études de camassien, ça devient un peu difficile, parce qu'il est parlé, il était parlé par un seul individu, il parlait tout seul, un seul, et il avait 92 ans en 1987. Donc vraisemblablement que maintenant, il doit être très 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 vieux, et donc il doit vraiment radoter. Donc il y a des petites langues qui ont disparu avant longtemps. C'est le cas aussi des langues minoritaires en Chine. On a eu à l'Institut une conférence sur les langues en Chine. Et la Chine n'est pas du tout un pays exemplaire de la connaissance des minorités. Mais vous avez des langues qui sont parlées par un nombre absolument microscopique de personnes. Il y a justement une langue, dont j'ai oublié le nom, je n'ai pas noté là, qui est plus parlée que par deux sœurs quelque part à la frontière de la Mongolie. Et c'est vraiment extrêmement délicat. L'inégalité de la diffusion géographique. Le nombre et la répartition des langues dans le monde créent inévitablement des rapports de force entre nations et États en raison de ces inégalités linguistiques, sociales, économiques, politiques. Et l'examen de la problématique met en relief, on est là pour l'étudier, l'inéluctable et difficile coexistence des langues. On va voir que toute cette question linguistique est effectivement une question de lutte pour le pouvoir, de lutte pour la survie. C'est pas évident du tout. La majorité de la population mondiale parle un tout petit nombre de langues. 94% pour 1% des langues. Les langues sont inégales par leur importance numérique, par leur diffusion géographique. L'anglais, par exemple, le fameux anglais, est une langue importante à la fois par le nombre de ses locuteurs, par son expansion sur les 5 continents. Alors, vous avez effectivement des questions très différentes sur la répartition géographique des langues, parce que vous avez des langues qui sont très puissantes par leur répartition géographique. Vous avez 65 pays dans le monde qui parlent anglais. Donc non seulement il y a un grand nombre de locuteurs, mais ce nombre de locuteurs se répartit à travers le monde dans beaucoup de pays. Vous avez des langues qui sont dans une situation différente. Par exemple, l'hindi. L'hindi est parlé uniquement en Inde. C'est une langue qui a pratiquement autant de locuteurs que l'anglais. Mais pourquoi l'anglais est devenu une langue beaucoup plus importante que l'hindi? C'est parce que l'anglais est beaucoup plus réparti d'une manière internationale. Lorsqu'il y a conjonction de l'importance numérique et de la diffusion dans l'espace, on parle de langue internationale. Et vous avez quelques langues internationales comme l'anglais, l'espagnol, l'arabe, le russe, le portugais, le français. Alors voilà, c'est là que le français vient sur l'épingle du jeu, parce que le français est une langue internationale parlée dans plus de 30 États. Alors que le chinois, par exemple, même avec 885 millions de locuteurs, le chinois n'est parlé que dans une seule région du monde. Et le fait qu'il n'a pas ce statut international lui enlève de son importance. Quant aux questions des langues secondes, de 322 millions de locuteurs ayant comme langue maternelle, l'anglais passerait à 1,5 milliard si on comptait ceux qui le disent comme langue seconde, comme langue étrangère. C'est une langue officielle ou utilisée dans près de 60 États comme langue administrative. Les locuteurs virtuels ne constituent quand même pas la réalité. Il n'y a pas 1 milliard de locuteurs chinois parce qu'il y a 1 milliard de Chinois. Nous savons également que la plupart des pays ne sont pas unilingues mais multilingues, ce qui nous rapporte au statut juridique des langues. Il y a aussi des grandes inégalités dans le statut juridique des langues. Les 6800 langues du monde ne jouissent pas du même prestige ni d'une reconnaissance équivalente. Il en est de même pour leurs locuteurs. On admettra sans difficulté que les 264 000 Islandais parlent une langue et qu'ils constituent une nation. On parlera plusieurs fois de langue islandaise parce que en Islande, même pour un tout petit pays, peu de locuteurs, l'islandais jouit d'une grande reconnaissance, d'une langue étatique. C'est une petite langue, mais qui a son état. En revanche, les 12 millions de Peuls qui parlent Peul, mais ce n'est pas considéré comme une langue, c'est considéré comme un dialecte réservé à des tribus. C'est tout à fait choquant, mais c'est la réalité qu'une toute petite langue est considérée comme une langue importante, alors qu'une langue parlée par beaucoup plus de gens va avoir un statut de simple dialecte. Une langue peut être limitée à une fonction unique, communication interpersonnelle à l'intérieur du foyer ou de communauté locale. C'est le cas de 98% des langues du monde. Et les 98% des langues du monde sont reléguées au rang de simples outils de communication à l'intérieur du cercle familial. Et c'est évidemment très frustrant parce que pour avoir vraiment de l'importance, une langue doit remplir plus de fonctions. Il y a beaucoup de fonctions qu'une langue peut remplir. Peut-être une langue véhiculaire, langue d'enseignement, langue coloniale, diplomatique, langue scientifique, langue d'immigration, langue nationale, langue impériale, langue impérieuse, langue liturgique, religieuse, sacrée. Plus une langue a de fonctions, plus elle va hausser son statut. Plus son statut est augmenté, et plus une langue a de chances d'être d'avoir une longue longévité. Si on prend l'Afrique comme exemple, il y a 2000 langues en Afrique, mais seulement 14 qui ont un statut officiel, comme le français, l'anglais, le portugais, le braille et l'espagnol. Donc, sur plus de 6700 langues, seulement 200 ou 300 langues exercent plus d'une fonction. La plupart des langues sont réservées à l'usage domestique, ce qui est évidemment très péjorant pour la survie de ces langues. Et dans ces langues qui possèdent plusieurs fonctions, ce sont les langues reconnues officiellement par les États. Et sur ces langues reconnues par les États, il y en a une dizaine seulement reconnues par deux États ou plus. Et cinq seulement qui sont employées dans plus de 20 États, l'anglais, l'espagnol, le français, le russe et l'arabe. Ce sont les cinq langues seulement qui exercent à peu près toutes les fonctions et une hiérarchie à travers ces langues montre évidemment un avantage incontestable pour l'anglais, qui est la nouvelle lingua franca. Et la faiblesse relative du français réside dans le faible nombre de ses locuteurs, puis celle de l'espagnol dans les facteurs économiques et militaires, celle de l'arabe dans la culture scientifique. Enfin, le nombre n'est pas tout, peut être contrebalancé par d'autres facteurs. De ce point de vue, il faut bien savoir que la prépondérance de l'anglais se fait au détriment de l'anglais lui-même. Parce que les gens qui disent que l'anglais est en train de conquérir le monde, en fait, c'est pas du tout ça. Le vrai anglais est parlé par de moins en moins de gens qui le parlent de moins en moins bien, les gens dans le monde entier parlant une sorte de sabir internetique, une chose comme ça, qui n'est pas le vrai anglais. Au point que la Grande-Bretagne elle-même est en train d'appeler au secours, ils sont en train de créer une institution comme l'Académie française pour essayer de sauver l'anglais. Donc nous avons vu maintenant que les langues sont extraordinairement variées, aussi extraordinairement inégalement réparties dans leur expansion géographique et linguistique. On parlera de l'expansion des langues tout à l'heure, mais je vous laisse volontiers un quart d'heure de pause pour vous récupérer de cette découverte des 6800 langues qui existent en ce moment. A tout à l'heure.